Deux, trois questions d'appoint. Alors, Roland Barthélémy, vous êtes ce qu'on pourrait dire un défenseur des fromages de qualité, des produits de qualité, des gommes industrielles. Alors, qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, je suis un défenseur de la qualité, mais je suis aussi le président d'une association qui est chargée de rassembler l'ensemble de la filière laitière à quelque niveau qu'il soit, donc qui s'appelle la Guilde des fromagers.
En France, donc.
Non, dans 33 pays et en Suisse, le club suisse de la Guilde des fromagers est extrêmement actif. Il compte une centaine de membres. Tous les acteurs de la filière laitière, que ce soit des alpagistes ou des commerciaux ou des fabricants de fromages de plaine. Et mon Dieu, au-delà de cela, c'est vrai que j'ai une activité aussi qui est celle d'être le président des meilleurs ouvriers de France, du métier de fromager. Et de ce fait, mon rôle est plus de transmettre le savoir, de transmettre par le compagnonnage, bien entendu, et donc de rassembler aussi l'ensemble de la filière laitière à quelque niveau qu'il soit. Alors, moi, j'ai un profond respect pour tous ceux qui travaillent dans le respect des us et coutumes. À la transformation de ce que j'appelle l'or blanc, donc de cette magie qui, par une coagulation instantanée, eh bien, va permettre une coagulation et donc va permettre au fil du temps de restituer tous ses arômes, tout son goût, toute sa quintessence. Et c'est le lait en fait, le lait nourricier, puisque nous sommes tous nés dans le lait. N'oublions pas que c'est ce lait qui a permis le formidable développement de l'espèce humaine sur cette terre. Et l'observation de la nature par la coagulation qui a permis de... Eh bien, de transporter du fromage pour nourrir les populations durant leur migration. Alors, c'est pour ça que d'ailleurs, de tout temps, toutes les grandes flux de migratoires étaient accompagnées d'un flux migratoire des troupeaux, quels qu'ils soient. Lorsqu'on est dans le désert, au jour d'aujourd'hui, vous ne voyez jamais un nomade. Sans son troupeau de chameaux, de chamelles, bien entendu. Ce qui fait que, eh bien, ça lui assure d'abord la boisson, hein, par le lait. Il se nourrit de ça, puisque dans le lait, c'est un aliment formidablement complet. Et ensuite, eh bien, en transformant le lait en caillé de façon sommaire, et avec quelques farines, eh bien, il fait des galettes, farine de souvent de sarrasin. Il fait des galettes uniquement dans lesquelles il incorpore de la matière protéotique. Et c'est un aliment extrêmement complet, puisque avec une farine et un solide bourré de calcium et d'iode aussi, eh bien, mon Dieu, il a absolument tout ce qui lui convient pour survivre.
Et les fromages industriels, alors, dans tout ça, qu'est-ce que vous en pensez?
Ben moi, j'en pense tout simplement qu'il ne faut pas jeter l'opprobre sur opposer l'industrie à la fabrication d'alpages. C'est deux modes de fabrication qui sont, dans un certain sens, complémentaires, chacun à sa place, hein. C'est un peu comme si au jour d'aujourd'hui je voulais vous dire que, eh bien, on ne devrait plus qu'avoir que de petits commerces indépendants qui nourrissent l'ensemble de la population. Il faut des grandes surfaces pour nourrir la masse de population qu'il y a. Mais ce qui est regrettable, c'est lorsque on franchit la ligne jaune et où l'un est au détriment de l'autre. C'est le respect de l'un qui doit engendrer la survie de l'autre. Et c'est dans cette complémentarité que chacun y trouve son aisance et sa raison d'être. Alors, les fromages d'alpage, ils ont l'absolue nécessité d'exister, de perdurer, pour mille et une raisons, hein. On les a déjà bien évoquées tout à l'heure. Et les fromages dits industriels, eh bien, il ne faut pas oublier qu'en plaine, il y a d'autres agriculteurs et que ces agriculteurs eh bien, détiennent eux aussi des troupeaux et que ces troupeaux, eh bien, il faut les traire et que de tout cela, il faut aussi assurer la pérennité de l'agriculture de plaine. Et que par le biais de l'agriculture de plaine, eh bien, on a engendré au début du 20e siècle, par la pasteurisation, eh bien, on a engendré des fromages dits d'industrie. Moi, je suis pas un homme qui aime beaucoup ce mot-là, parce que pour moi, l'industrie, c'est l'industrie lourde. C'est l'industrie, c'est celle qui produit des automobiles, celle qui produit les hauts fourneaux. Mais l'industrie laitière, pour moi, ça ne veut rien dire. Je préférerais du tout qu'on emploie le mot laiterie, laiterie fromagerie, et où eh bien, on y fabrique des fromages qui méritent tout à fait respect. Vous savez, dans la gruyère, eh bien, l'été, on fabrique du gruyère d'alpage, hein, tant est-ce bien, mais il y a aussi des fromagers qui sont en plaine, et puis on y fabrique un fromage qui n'a absolument pas à rougir, loin de là, que l'on appelle réserve, fromage de plaine, hein, et Dieu sait si un fromage de plaine, c'est extraordinaire, c'est très très bon. Et puis après, bah, il y a tout un tas de milliers d'autres fromages. Alors si on reste chez nous, en Suisse, puisque lorsque je suis dans un pays, j'ai pour habitude de dire que j'essaye de me fondre dans ce pays, eh bien, mes amis suisses, quand on voit des vacherins fribourgeois, c'est joli, les vacherins fribourgeois d'alpage, mais eh ben, ça ne suffit pas à nourrir tous les gens qui se régalent de fondue moitié-moitié. Hein, donc il faut des fromages, des vacherins fribourgeois, des vacherins qui sont fabriqués en plaine. Et c'est cette complémentarité. Alors après, ben, on peut rentrer dans les fromages à pâte molle, hein, qui eux, qu'est-ce que vous voulez dire, moi, une petite tome vaudoise, un petit reblochon vaudois, c'est sensationnel. Si on va un peu plus loin, ben, un emmental, voilà, alors un emmental, ben, alors l'emmental, on peut, c'est un fromage de plaine, au jour d'aujourd'hui, ben, on peut en tirer la quintessence par l'affinage, et Jean-François Bühlmann tout à l'heure le disait très très bien, la réussite d'un fromage, c'est 50-50, hein, 50 à la fabrication, 50 dans les caves. Eh bien, lorsque vous mettez un emmental dans des grottes et que vous les affinez en les frottant pendant plus de 9 mois, on appelle ce qu'on a maintenant un emmental de grotte. Oh, mais ça, attendez, ça a un bouquet, ça a une longueur en bouche, une robe, c'est absolument extraordinaire. Et c'est la magie de l'affinage qui a transformé tout ça. Et puis, après, bah, écoutez, moi, vous savez, j'ai goûté des sprints de 2 ans et demi, mais un sprint de près de 3 ans, c'est extra. Râper sur, faire un gratin, mettre ça en gratin, mais c'est merveilleux. Se faire des petits copeaux, des carpaccio de sprint. Voilà aussi un très très grand fromage qui n'a pas à rougir de son frère de l'autre côté des Alpes, que l'on appelle le Parmigiano Reggiano. Donc non. Le respect des uns passe par le respect des autres.
Alors le Letiva dans tout ça, comment vous pourriez nous le décrire ce fromage?
Bah, le décrire Letiva, je crois qu'on l'a déjà longuement évoqué par son cahier des charges, donc qui a la particularité d'être fabriqué uniquement durant l'alpage. Je comprends bien le sens de votre question. Par rapport à un gruyère, voilà ce qu'on peut dire par rapport à un gruyère d'alpage. Eh bien, il y a une finesse de pâte qui est incomparable et que s'y différencie bien avec un gruyère avec un gruyère d'alpage. Pourquoi ? Parce que d'abord, nous ne sommes pas sur les mêmes alpages. Nous ne sommes pas sur les mêmes orientations. Ensuite, les us et coutumes de fabrication ne sont pas tout à fait les mêmes. Vous voyez, la finesse du grain que l'on a sur l'étivat, eh bien, n'est pas tout à fait la même sur la gruyère. Le temps de chauffe non plus n'est pas tout à fait le même. C'est vrai que là, on chauffe à 56. Sur la gruyère, on monte un petit peu plus. On monte à 58. Alors, c'est pas du tout dire que l'un est meilleur par rapport à l'autre, mais on a deux fromages différents. La flore, ici, dans ce qui fait le pays d'en haut, eh bien, n'est pas tout à fait la même que celle que l'on retrouve dans la zone d'appellation d'origine contrôlée du gruyère d'alpage. Et puis, ensuite, la méthodologie de fabrication non plus n'est plus tout à fait la même. Alors, c'est vrai que ce qui pour certains est un défaut, qui pour d'autres est une grande qualité, à savoir que cette chauffe au feu de bois, eh bien, par le culot, que c'est le culot de du chaudron, voyez-vous, eh bien, par les essences qui sont dégagées, ces essences dues à la résine, au pain, que l'on retrouve dans le sapin, cette chauffe-là qui dégage une odeur. Et cette odeur, eh bien, elle se mélange, c'est la magie de la fabrication fromagère. Allez savoir pourquoi on retrouve des petits goûts de fumée dans un étivat, eh bien ça s'explique uniquement par sa méthodologie de chauffe, par la chauffe au feu de bois. Et alors moi, j'en raffole. Vous savez, quand on a, tout le monde sait ce que c'est qu'un saucisson, eh bien, on a des saucissons qu'on met dans le tuyau. C'est-à-dire que l'on sèche à la fumée de bois. Hein, eh bien, quand vous coupez ça, ou des jambons aussi, quand vous coupez ça, ben vous avez un petit goût de fumée naturel, hein, ben ce goût de fumée qui s'est transmis au jambon, eh bien, la chauffe au feu de bois dans le gruyère, dans l'étivat, eh ben la chauffe au feu de bois, elle rejaillit suivant les alpagistes, et pas tous.
Donc finalement, on ne peut pas tromper le goût. Enfin, on est obligé d'appliquer tout le cahier des charges. On ne peut pas tromper au niveau du goût.
Non, on ne peut pas tromper parce que on est totalement dans un esprit de totale sincérité. Vous savez ce que c'est que de travailler à cœur ouvert ? Eh bien, de vous accepter aujourd'hui pour cette émission, de m'accepter moi, si vous permettez, c'est aussi ça la générosité du grand cœur ouvert. Il n'y a rien à cacher. Il n'y a rien à cacher lorsqu'on est en osmose avec la nature. Et c'est cette transparence que je voudrais que vos éditeurs, auditeurs, comprennent bien. La transparence d'ouvrir son cœur, la transparence de la nature. C'est tout ça aussi un alpagiste.
Alors, en France, vous avez des AOC depuis 1930, donc finalement c'est un pays où le fromage est roi. Le Français que vous êtes, quel regard est-ce qu'il porte sur les AOC suisses, sur les fromages suisses aussi peut-être en général?
Bah, il porte un regard qui est celui de l'humilité. Roland Barthélémy, il porte un regard. Pour moi, le métier de fromager, il n'y a pas de frontières. Alors, il n'y a pas de frontières. Et c'est beaucoup plus, mais nom de Dieu, comment vous faites pour faire des fromages de cette qualité-là? Eh bien, on me répond, bah, c'est l'air, c'est la nature, c'est les alpages, c'est le savoir-faire. Oui, c'est tout ça. Alors, lorsque je suis dans les Pyrénées, et puis je suis avec mes amis bergers, avec mes amis basques, eh bien, on y fait un autre des gros fromages. On y fait des fromages qui sont extraordinaires, de l'Ardigachna. On y fait de l'Osso Irati. On y fait des petites tomes au lait de brebis. Et puis on retrouve aussi cette rudesse de ces hommes. Alors là-bas, bah, ils ont des peaux de mouton sur le dos. C'est comme ça. Ils ont une canne, ils ont un béret vissé sur la tête. Et puis ils sont ancrés dans leur montagne, de la même manière qu'on le retrouve ici. Il n'y a pas de frontières pour le monde fromager. Et puis quand je suis dans les plaines de Touraine, Là, vous savez, la Touraine, les Tourangeaux, c'est là où il y a tous les beaux châteaux en France. Chambord, Amboise, tout ça, là, les beaux châteaux. Et ben là, j'y retrouve beaucoup de chevriers. Et ben c'est des gens qui travaillent le lait de chèvre dans des toutes petites quantités, qui font des tout petits fromages, et puis qui les commercialisent au bout de 3 semaines, tu vois. C'est tout de suite là. Alors des fois, on peut les garder un peu plus longtemps, 2 mois, 3 mois. Mais quand tu as gardé des fromages 3 mois, ils sont comme de la pierre. Mais ça aussi, quel bonheur d'avoir toute la saveur caprine qui est là, qui fond dans ta bouche. Le fromage, c'est universel.
Très bien. Ben, Jean-François, vous appréciez, j'imagine, les vues de Roland, hein, Barthélemy.
Oui, je les partage. Je n'ai pas du tout sa connaissance au niveau des fromages. Alors loin de là. Je suis quelqu'un qui est beaucoup moins voyagé. Je connais surtout les fromages à pâte dure et mi-dure. Je lui ai fait un apprentissage de fromager dans le Gruyère et le Vacherin. Donc, je connais beaucoup moins les spécialités au niveau français, hein, c'est clair. Mais par contre, je partage vraiment, vraiment cette vue-là. Et je suis assez, justement, pour qu'on essaye de garder ces traditions. Donc, pour moi, ça a été aussi une grande chance de pouvoir venir travailler ici à l'Étiva, parce que j'ai toujours été plutôt dans des fromageries artisanales au niveau de mon apprentissage, et là je retrouve exactement en fait à l'Étiva un petit peu ce que j'ai vécu dans mon apprentissage. J'étais dans une fromagerie à Salsarine, pour les gens qui connaissent, chez Monsieur Cibot, où là, si vous voulez, c'est une fromagerie qu'on peut dire qui est pratiquement comme à l'alpage. La seule chose, c'est qu'on ne chauffe pas au feu de bois. On travaille à la toile, il travaille toujours comme ça, d'ailleurs je le salue bien. Mais c'est des endroits où j'ai vraiment appris ce que c'était le respect aussi de la matière. Et je suis vraiment pour défendre ça. Et j'espère que, tout en, bien sûr, en sachant qu'on doit évoluer, on doit suivre aussi, l'évolution de tout. Mais je pense qu'on a une possibilité, c'est vraiment de dire, voilà, notre but, en fait, c'est de pouvoir... Moi, ce que j'aimerais vraiment, c'est qu'on sait que la politique agricole devient vraiment impitoyable. Hein, on vous dit « démerdez-vous », c'est la seule chose qu'on sait nous dire. Alors, bien sûr, je crois que ce qu'il faut aussi savoir, c'est que les jeunes agriculteurs, on les forme, ils ont le goût. Mais il faut aussi un petit peu justement savoir qu'avec toute cette libéralisation et tout ça, il y aura énormément, ça va être très pénible, à mon avis. Mais j'espère vraiment, c'est mon but, c'est que les gens viennent sensibiliser, c'est que s'il n'y a pas cette agriculture sur le canton de Fribourg ou sur le canton de Vaud ou sur toute la Suisse ou même en France, il y a tout le reste qui va arrêter. Il y a le tourisme, il y a l'entretien des paysages, il y a le problème des catastrophes naturelles. On voit bien, on dit qu'on n'a plus le droit d'aller dans des alpages. Hein. Vous savez le cas qu'il y avait eu justement où il y a eu des gens qui ont fait position par rapport aux mortais. Je veux dire, mais quand il y a des gens qui ont la rage d'aller tenir des alpages dans des endroits comme ça, et puis qu'on veut les interdire, mais dites-moi où il est le sens. C'est des gens qui viennent ici en alpage, ils ne viennent pas pour tirer tout ce qu'ils peuvent tirer et puis polluer. Ils travaillent en respect avec cette nature et ils la font vivre, cette nature. Parce que pour moi, c'est ça qu'on doit garder en Suisse. On est un pays où tout le monde dit « la Suisse, c'est beau, c'est entretenu, c'est... » Mais c'est justement parce qu'il y a ces gens qui peuvent gagner et il faut qu'ils puissent continuer à gagner leur vie. Et au jour d'aujourd'hui, je ne suis pas convaincu avec la politique agricole qu'on met en place que ça va être encore vraiment possible. En tout cas, on va tout faire, nous, pour le défendre. Mais en tout cas, ce que je pense, c'est que c'est l'option, en tout cas pour les régions de montagne ou préalpines comme la nôtre, la Gruyère, le Pays d'en Haut et tout ça, toutes ces régions préalpines et montagnardes, c'est des produits de niche, c'est des produits comme l'Étiva, c'est des produits comme la Tom Florette à Rougemont, au niveau du Gruyère, hein, parce que même le Gruyère qui est un autre produit, mais pour moi est fabriqué encore artisanalement dans ces fromageries de village, hein, c'est chaque fois aussi un autre producteur et tout. Pour moi, les Vacherins fribourgeois et tout ça, c'est quelque chose qu'on doit maintenir, mais qu'on doit maintenir dans ce système-là et qu'on ne doit pas regrouper tout à la même place pour faire des grosses productions. Ça, je suis alors, par contre, moi, un petit peu plus... je ne suis pas pour ça. Et je pense qu'il faut qu'on puisse continuer à ça pour que l'agriculture de nos régions puisse continuer à vivre.
Mais justement, est-ce que l'AOC n'est pas une bonne alternative, un bon moyen de protection contre ce démantèlement du marché paysan en Suisse, la fin des quotas et tout?
Je dirais que ce n'est pas un bon moyen de démantèlement. C'est un bon moyen de pouvoir se progresser. Par exemple, pour nous, l'AOC, il faut dire, je pense que tu seras d'accord avec moi, Roland, les Français sont très, 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 comment dire, portés sur le terme AOC. Alors bon, au début, ils ont un peu analysé ce que c'était, ce que valait une AOC suisse, hein, parce que c'est en fait l'OFAG, hein, l'Office de l'agriculture, qui a fait une base pour pouvoir commencer à faire des AOC. Ils ont analysé un petit peu si nos AOC tenaient la route ou bien si c'était vraiment un peu du pipeau, comme on dit. Et une fois qu'ils se sont rendus compte que c'était quand même, je veux dire, dans la majeure partie des cas, très sérieux, les cahiers des charges de chaque AOC suisse, ben on a senti l'attrait, donc l'attrait était déjà avant, mais je veux dire, pour nous, on sent par exemple que l'AOC sur la France est porteur, est très porteur. Par contre, je vous donne un exemple, en Allemagne, AOC, pour nous, c'est comme si on l'avait ou on l'avait pas, c'est la même chose, parce qu'ils sont pas sensibles à ça.
Parce qu'il y a pas, en Allemagne, il n'y a pas de culture fromagère, mais lorsque l'on va en Italie, c'est vrai que bon, l'Italie est moins, l'Itiva est moins connue en Italie. Hein. En Italie, on retrouve la culture d'appellation d'origine contrôlée, on retrouve la culture fromagère tout court. Permettez-moi simplement de dire que l'Allemagne a une très très faible culture fromagère. Dans la gastronomie allemande n'est pas réputée pour ses fromages. Alors, indiscutablement, que ce soit en Belgique ou en France, l'obtention des AOC helvétiques a renforcé la notoriété et la confiance du consommateur. C'est vrai que les produits suisses, ont toujours une grande respectabilité en France. Hein. Quand on dit c'est un produit qui est fabriqué en Suisse, c'est un fromage qui est fabriqué en Suisse, ça, automatiquement la connotation qualité existe.
Oui.
C'est aussi juste pour ce que vient de dire Roland, ce que moi je remarque, parce qu'on va quand même pas mal passablement en France aussi pour des contacts ou pour des salons, des choses comme ça, c'est que de la base, le fromage de Suisse a cette connotation. Ah, c'est du fromage de qualité, vous les Suisses. Alors, mais il faut aussi savoir que c'est dans la spécialité des pâtes, mais je dirais mi-dure et pâte pressée cuite. Ou pâte dure, hein. Pâte pressée cuite, c'est le terme français, mais en Suisse, c'est pâte dure. C'est surtout dans ces fromages-là qu'on a le savoir en Suisse. Par contre, au niveau des pâtes molles, pâtes fleuries, ça, c'est plutôt nous qu'on a pris ce savoir en France, où ça vient quand même, je dirais, plutôt de la France que de la Suisse.
Oui, excepté quand même, parce que là, on va faire dans la vallée de Joux des mécontents, excepté le Vacherin, le Vacherin est un grand fromage à croûte lavée suisse, indiscutablement, hein, et qui est d'appellation d'origine contrôlée, voilà, bien entendu. Et qui est, pour moi, c'est un fromage jurassien. Alors, d'un côté, il y a le Jura français, l'autre côté, c'est le Suisse. Je vais vous dire, hein, c'est les politiques, c'est les guerres qu'on fait les frontières. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, pour moi, les fromagers, ils n'ont pas de frontières. Alors, le Vacherin, qu'il soit suisse ou qu'il soit français, il est de très grande qualité. C'est un fromage merveilleux aussi, et il faut pas l'oublier, parce que tout à l'heure je disais une fondue moitié-moitié, c'est vrai, mais une fondue dans laquelle on a mis un peu de Vacherin, mon Dieu, ça se laisse bien glisser. Hein. Voilà.
Encore une question, parce qu'après on va s'arrêter. Jean-François Bilman, le fait d'être la première AOC de Suisse, hein, en l'an 2000, vous avez obtenu cette AOC, vous étiez un peu des pionniers, est-ce que c'est une responsabilité aujourd'hui encore d'être la première AOC ?
Alors, je vais peut-être tout de suite mettre les choses au point. Moi, j'étais pas là, donc je veux pas avoir les honneurs de cette chose-là. Non, je dirais qu'il y avait des gens qui étaient en place à l'époque, qui ont, si vous voulez, le président et le, il faut pas oublier aussi quand même le gérant de l'époque, qui ont toujours travaillé de pair les deux, et qui avaient mis déjà en place ce qu'on appelle un règlement interne. Et ça a été, ce règlement interne a été mis en place, je crois, dans les années 85-90, hein, si je me trompe pas, Roger. C'est joliment ça, hein. Ouais. Et en fait, ce règlement a été vraiment fait, sans le vouloir, mais a été la base pour pouvoir faire là aussi sans avoir beaucoup de choses à changer. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'Etiva est peut-être pas parti tout seul, Il y avait d'autres fromages qui sont partis plus ou moins en même temps pour faire la OC. Mais en étant qu'une coopérative où tout le monde est relié à la même place, tout le monde avait déjà le même règlement. Donc, les procédures d'opposition, ces choses-là, il y a eu très peu de choses. Donc, l'obtention a été plus rapide. Si on peut prendre l'exemple du Gruyère, où là, vous avez environ... À l'époque de la OC, je pense qu'il y avait encore une dizaine d'affineurs différents. Vous avez, je sais plus, je ne peux pas vous dire le nombre de fromageries, plus tous les producteurs derrière. Il y avait des problèmes de savoir qu'est-ce que les gens par rapport à ce qu'ils mettaient dans le cahier des charges. Donc il y a peut-être ce côté d'aussi de petit qui a fait que ça a été aussi plus rapide à ce niveau-là. Mais par contre, ils ont toujours, toujours voulu préserver leur bien. Et la seule chose par contre qui est différente, c'est qu'ici, ce qu'on peut leur laisser alors aux gens de l'Étivin, c'est que depuis 1985, ils sont sortis de l'USF. Et ils se sont débrouillés alors, à vendre leur fromage seul, sans compter sur l'État. Et ça, je crois que c'est vraiment des pionniers à ce niveau-là, parce que tous les autres, par contre, ont attendu en fait la fin, la libéralisation. Donc je dirais que ça il faut leur laisser. C'est les caractères de montagnards, hein, c'est les gens qui sont là, qui sont bien là, qui sont prêts. Mais alors de ce côté-là, alors, ils ont toujours voulu se débrouiller. Et ça, j'aime beaucoup ce contact-là, parce que j'aime bien ces gens qui sont un peu... Voilà, qui sont Cavalier. Un peu... Voilà. Et puis, qu'on sait ce qu'on... Quand vous discutez avec un producteur, on n'est pas toujours d'accord, hein, de temps en temps, ça chauffe. Mais on sait ce que les gens y pensent, c'est ça. Ça j'apprécie le terme m'échappe. Cette franchise. Puis j'aime bien, moi, je suis aussi assez franc quand il y a quelque chose qui me plaît pas, je le dis aussi. Mais alors, de temps en temps, ça fait des étincelles, mais après, bah, c'est comme maintenant. On règle ça avec un morceau de fromage et puis un verre de blanc, et puis ça passe. Mais j'aime cette franchise.